Vous revenez du Laos, Jean-Pierre Blanc, il y a quelques heures à peine. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
Eh bien, j'ai été poursuivre la collaboration que nous avons avec une coopérative de commerce quittable. Nous avons bâti un projet, nous le développons, sur le plateau des Boloven, au sud du Laos, qui est un pays où il y a des ethnies encore qui vivent de façon très traditionnelle et qui ont besoin de s'organiser pour vendre plus cher un produit de qualité et pour faire face à une concurrence qui appauvrit le petit producteur. Donc, il y a eu une organisation d'une coopérative d'environ 3 000 personnes et qui a été appuyée d'ailleurs avec l'aide de la France et l'Agence française de développement. Et voilà, donc nous allons là-bas pour vérifier le travail qui est fait, pour améliorer encore la qualité des produits et puis pour surtout pour apporter notre soutien à tous les projets collectifs que nous faisons en supplément de la partie de commerce qui tape, parce que nous sommes attachés à les faire progresser dans un sens d'une autonomie complète, puisque le commerce qui tape, c'est le démarrage d'une vie économique autonome et un développement vers d'autres activités que le café que nous achetons.
Sont les populations qui sont en voie de disparition, sont les populations qui sont pourchassées ou pas du tout?
Non, elles ne sont pas pourchassées, elles sont appauvries, paupérisées par des grandes compagnies qui viennent acheter pour pas cher du café comme ça en bord de champ. Le système du commerce quittable permet d'organiser les paysans en petites associations. Ils préparent leur café, ils se regroupent en plusieurs associations pour pouvoir l'exporter. Et donc, c'est toute une chaîne en fait de savoir, une chaîne de relations entre les hommes qui fait que ce produit-là est un produit qui est soigné, qui est valorisé, qui permet d'augmenter les revenus des paysans et qui permet de faire des programmes collectifs.
Mais dites-moi un petit peu comment vous choisissez les endroits. Qu'est-ce qui vous a attiré votre attention sur cet endroit-là qui devait être complètement méconnu du monde?
Ah ben c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a appelé, qui m'a dit il faut que tu viennes au Laos, dans cet endroit, au plateau des Bolognais, ils ont besoin de toi parce que ils ont besoin que tu fasses ce produit qui est extraordinaire. Voilà, et on s'est déplacé, on a démarré. Mais vous savez, moi je suis tombé dans le commerce quittable avec le père Francesco Van der Hoff, dont je
J'allais
vous
dire quand
parlais,
vous étiez petit dans la
quand j'étais
marmite.
petit dans la marmite, il y a très longtemps, en 1992. Et depuis, si vous voulez, j'ai eu des coups de cœur comme ça, avec des coopératives en Haïti, par exemple, où on
Oui,
travaille.
on va en parler.
Voilà.
Mais alors, on vous a dit, ce café est exceptionnel, il faut que vous veniez les aider et que
Oui.
vous... C'est ça.
Je l'ai fait parce que le café était exceptionnel.
Ouais.
Ça m'est arrivé d'aller dans des coopératives où il y avait du travail à faire au niveau qualité produit. Donc, je n'ai
Pour
acheté
améliorer la qualité du produit.
et vendu le produit que quand il était à niveau, parce
Voilà.
qu'on ne peut pas se permettre de vendre un produit qui ne soit pas de très grande qualité. Le consommateur qui achète un produit, que ce soit l'agriculture biologique ou le commerce quittable, doit être un produit irréprochable. Celui qui l'achète, le consommateur qui l'achète, doit, au premier achat, dire: je continue à acheter et je ne fais pas de la charité, je me fais plaisir moi-même quand je le consomme.
Et c'est ça qui remplit la majeure partie de votre temps. Vous parcourez le monde pour essayer
Oui, j'ai
de...
plusieurs casquettes. J'ai une casquette de directeur général, mais j'ai une casquette aussi
d'explorateur.
d'explorateur et je vais 4 fois par an dans les coopératives sur le terrain parce que j'ai des difficultés à vendre un produit que je n'ai pas touché, saisi et dans lequel je n'ai pas eu des discussions avec les gens qui le fabriquent.
Donc par exemple, et vous en parliez tout de suite, là, vous avez relancé la culture du café en Haïti, c'est à Cap Rouge.
Oui, on a travaillé et on continue à travailler parce qu'après le séisme, c'est un grand chambardement et un grand n'importe quoi qu'il y a actuellement en Haïti, où il y a beaucoup d'aide mais peu de résultats. Donc on poursuit la mission qu'on s'était donnée, c'est-à-dire d'essayer de continuer à faire notre travail, à la fois à Cap Rouge, à la fois dans la région de Tchiot et dans le nord à Cap Haïtien.
Alors, en Haïti, il y a 30 000 planteurs que vous aidez. 30 000 planteurs, mais qu'est-ce qu'ils plantent? Ils ont un plant, c'est tout.
Ben, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle en Haïti, c'est un peu particulier parce que les plantations sont très petites, hein, à demi-hectare, à 1 hectare maximum, et ce qu'on appelle un jardin caféier, c'est-à-dire que ce ne sont pas des plantations obligatoirement organisées. On essaie aujourd'hui de leur apporter un savoir pour améliorer la productivité de leur plantation, et c'était pas le cas jusqu'à présent. Et le tremblement de terre n'a rien amélioré, malheureusement, et je pense qu'il va falloir mettre les bouchées doubles là-bas.
Alors ces planteurs-là sont assurés grâce au commerce équitable de toucher un revenu minimum, quel que soit le cours du café, notamment à la baisse, c'est bien ça ?
Notamment à la baisse, puisque le café est une matière première qui est cotée sur la bourse de New York en ce qui concerne les Arabica. Et pour vous donner juste un exemple précis, le prix minimum garanti par Max Havelaar est de 125 cents la livre de pois de café. Et dans les années 2000-2005, c'était une période très très basse des cours du café, on est descendu à 45 cents la livre. C'est-à-dire qu'on achetait quasiment le café plus la prime sociale, plus la prime agriculture biologique, plus de trois fois le prix du marché. C'est-à-dire qu'à cette période-là, on a eu un effet amortisseur extraordinaire pour des gens qui étaient plongés sinon complètement dans la misère.
Mais alors la question qu'on peut vous poser, c'est vous y retrouvez ?
La preuve, c'est que je suis toujours là. J'ai commencé en 92. Je pense qu'il n'y a pas une opposition entre une entreprise et une économie sociale et solidaire. Le problème que nous avons aujourd'hui dans notre modèle économique, c'est un système libéral. Et je pense que libéral, ultra. Ultra. C'est-à-dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on vit sur un modèle économique où c'est la liberté des marchés, c'est la concurrence maximum. Or, nous devons, si nous voulons que la planète continue à fonctionner, nous devons rééquilibrer, non pas moraliser le capitalisme, parce que le capitalisme, il n'est ni moral ni immoral, il est ce qu'on lui a demandé d'être, c'est-à-dire de faire maximiser les profits. Or, aujourd'hui, c'est à l'individu, c'est à l'homme, et aux hommes, aux politiques, de dire dans quelle société nous devons vivre. Et la société dans laquelle nous devons vivre, c'est une société qui est beaucoup plus équilibrée. Donc le commerce équitable a cette valeur, bien sûr, d'exemple. Les producteurs sont un exemple d'un modèle économique qui fonctionne, puisque je vous rappelle, ça date depuis quand même 92. On est aujourd'hui en 2010. Ça fait vivre 8 millions de personnes. Donc on peut dire que la régulation des marchés, la prime sociale qui permet de faire du collectif, ça a du sens.
Donc vous êtes d'accord avec le chiffre 8 millions de personnes, c'est quelque chose qui est acceptable.
Oui, tout à fait.
En ce moment, les cours du café Arabica sont à la hausse ou à la baisse ?
Les cours du café sont à la hausse depuis maintenant une bonne année, puisqu'on est autour de 200. Mais on paye le prix de la bourse, plus la prime qualité, plus la prime de développement, plus la prime agriculture biologique.
Donc même à la hausse, grâce au commerce équitable, ils sont toujours gagnants, les petits producteurs.
Les petits producteurs sont toujours gagnants, c'est qu'on paye plus que le marché.
Cela dit, vous ne l'avez pas assuré que ça. En Haïti, vous avez aussi installé un certain nombre de technicités d'avant-garde.
Oui, c'est-à-dire on a essayé d'apporter dans des zones rurales une communication par le biais de ce qu'on appelle le WiMAX, qui est une technique qui permet de communiquer comme chez vous par Internet. Et on a amené à la fois la communication dans la coopérative et dans les écoles qui du coup étaient connectées à Internet et qui permettaient, alors qu'il n'y avait pas de livre, d'assister à la fois à des cours et puis de se familiariser avec l'outil. Donc ce sont des choses qu'on essaie d'amener dans d'autres coopératives, par exemple à Ossiri. Nous venons d'aider à monter, parce que ce n'est pas nous qui le montons, nous avons financé un programme d'écotourisme qui est aujourd'hui en vente chez un tour opérateur d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Écotour. Justement, c'est comment vivre quelques jours dans une coopérative, cueillir le café, voir comment les paysans vivent, échanger, faire des recettes de cuisine avec eux, etc. Donc c'est cet échange autour de l'individu qui nous intéresse.
Je présume que Malongo n'a pas toujours fait du commerce. Merci équitable. Qu'est-ce qui vous a amené à aller dans ce circuit-là ?
C'est la rencontre
avec Francisco,
avec un homme d'exception qui, il ne faut pas oublier, quand même docteur en théologie, mais est docteur en économie, donc et qui a une vision du modèle économique absolument extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, il est toujours agriculteur. Hein, il cultive toujours un hectare de caféier, donc il gagne 3 dollars par jour, il gagne 3 dollars par jour, et il fait des livres, il fait des conférences, etc. Donc on peut être à la fois les mains dans le cambouis et puis avoir une vision du monde.
Alors j'ai remarqué quelque chose en lisant le livre de Francisco van der Hoff, c'est que dans la préface de ce Manifeste des pauvres, l'éditeur Éric Bonnier dit que vous êtes souvent et copieusement engueulé avec van der Hoff, mais que vous êtes toujours resté ami. Alors ces engueulades, c'était pourquoi? C'était parce que vous n'étiez pas d'accord sur la façon de développer le commerce équitable?
C'est-à-dire que Francesco, c'est quelqu'un d'extrêmement entier et qui est passé par différentes phases. Hein. Il a eu sa phase extrêmement...
Guevariste
Oui, très forte. Et puis après, il a évolué. Et puis il se rend compte aujourd'hui que le modèle équitable qu'il a mis en place, qu'il a conceptualisé, parce que ça existait déjà, mais dans l'organisation, c'est un modèle qui est quand même fini. Il faut transformer l'ensemble de la société. Et donc, il évolue. Donc, on a eu des discussions très longues au cours de ces années, oui, sur lesquelles moi, je n'étais pas d'accord. Je pensais qu'il fallait faire certaines choses. Lui, il pensait autrement. Donc, et c'est de la discussion que naît peut-être pas la lumière, mais au moins l'amitié.
Rapidement, qu'est-ce que c'était les pommes de discorde?
Ah ben, lui, il était très... Il voulait, par exemple, que le commerce équitable reste dans des lignes extrêmement figées. Et il n'avait pas tort. Il avait raison. Mais à un moment donné, si on veut qu'on s'adresse aux consommateurs et qui est le maximum de consommateurs qui achètent les produits, il faut bien aller vers des modèles vers lesquels les consommateurs puissent trouver le produit et puissent l'acheter.
Alors, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que c'est dangereux de créer ce commerce équitable? Parce que vous continuez sans doute à vous heurter à des intérêts importants et qui ne veulent pas que ça se développe.
Oui, vous voulez parler d'intérêts importants et peut-être d'autres labels qui...
Ça, on va en parler tout à l'heure. Non, mais probablement des multinationales qui ne sont pas là pour faire du commerce équitable.
Bah, disons...
Est-ce que physiquement, vous avez été menacé?
Non, jamais physiquement, mais on sent que moralement les intérêts économiques ne sont pas convergents entre certains grands groupes qui pratiquent une politique et qui est la leur. On ne peut pas leur reprocher puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la politique de maximisation du profit, c'est la règle du marché. Donc, qui sont dans la règle du marché et d'autres qui sont moins dans la règle du marché parce qu'ils veulent un autre modèle économique.
Vous êtes le seul à le faire, le café équitable?
Ah, pas du tout. Il y a beaucoup d'opérateurs en France, il doit y avoir...
Citer Lobolis, par exemple, il fait de la publicité pour le commerce équitable.
Oui, oui,
c'est
oui.
Le commerce équitable aussi?
Oui, bien sûr. Tous ceux qui ont le label Max Havelaar font du commerce équitable. Alors, il y en a qui le font de façon plus ou moins avancée. Nous, on est très avancés dans la mesure où on travaille à la fois avec des coopératives sur du très long terme, on met des accords en place et on essaie d'aller au-delà, c'est-à-dire de les aider, par exemple, à produire d'autres éléments. Là, j'étais au Laos sur cette coopérative et on est en train de travailler avec eux sur un programme pour torréfier du café sur place et qu'ils vendent avec plus de valeur ajoutée, de façon locale, leurs produits. Donc, c'est un appui qu'on apporte. Donc, si vous voulez, le commerce équitable, c'est pas uniquement acheter le café pour nous, c'est aller au-delà de cette démarche. Acheter le café, c'est la base. Le café, pour les paysans, c'est le minimum garanti, c'est la filière. Et derrière ça, il faut qu'il se développe dans un cadre aujourd'hui qui est malheureusement mondialisé. Et vous savez, que vous alliez au Laos, que vous alliez en Haïti, que vous alliez au Mexique...
Ça veut dire que toute la gamme du café Malongo est commerce équitable ou pas?
Actuellement, nous réalisons à peu près 50% de nos achats en certifié commerce équitable.
C'est en progression?
Bien sûr, c'est en progression chaque année.
Vous voulez arriver à 100%?
Peut-être pas à 100% parce qu'il y a des origines sur lesquelles on ne pourra pas faire du commerce équitable, donc ça ne sera pas possible, mais disons monter au moins à 80%. Et nous montons des programmes à long terme. Un autre que je peux vous citer aussi, c'est on est en train de monter un programme dans l'île de São Tomé et Principe, donc qui est au large du golfe de Guinée, un programme avec une organisation de l'ONU donc qui s'appelle le FIDA, l'État de São Tomé, pour réorganiser la filière en café arabica de qualité et le vendre. Donc, si vous voulez, ça va rentrer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à court terme, c'est notre intérêt, il est à long terme sur le commerce équitable.
En ce moment, vous faites de la pub pour la Tierra.
Oui.
C'est un café beau, bio et équitable. Vous n'en faites pas un peu trop, là, quand même?
Ben non, parce que...
Pourquoi beau?
Beau
parce que... l'emballage?
Non, ce n'est pas l'emballage qui est beau. Beau, c'est en fait le consommateur... ressent dans ce produit-là à la fois des critères pour sa santé, c'est-à-dire il sait qu'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, etc. Il sait qu'il va faire du bien aux producteurs, donc c'est un ensemble d'éléments positifs que l'on voulait faire ressortir, c'est que finalement on vit dans un monde qui est tellement triste aujourd'hui où tout va mal qu'on voulait mettre un peu de gaieté et faire comprendre qu'à travers un produit, on pouvait quand même faire changer les choses.
Et vient d'où ce café?
Alors ce café, c'est un mélange donc de différentes origines, dont le Mexique, dont l'Éthiopie qui fait un très très bon café donc dans la région de Sidamo, dont le Laos dont je vous ai parlé. Et donc c'est un mélange de tous ces produits avec une recette qui est tout à fait particulière pour à la fois avoir du corps, une légère acidité et une très grande longueur en bouche.
Vous en faites très bien la publicité en tout cas. Merci Jean-Pierre Blanc.
Merci.
Restez avec nous parce que Benjamin Leroy qui nous a rejoint et qui n'a plus de problème de train, voulait vous poser une question.
Oui, je voulais savoir si finalement, dans le cadre des cafés certifiés que vous achetiez finalement tous les cafés au même prix finalement. Est-ce que cette régulation par les prix du marché ou le prix Max Havelaar fait que c'est partout pareil?
Alors, c'est une question intéressante et un peu complexe parce que d'abord, on ne peut pas acheter tout au même prix parce que ça dépend de la période dans laquelle on achète. Si j'achète il y a un mois et que je fixe les prix il y a un mois et que le marché a monté ou baissé aujourd'hui, donc les coopératives qui vont me vendre les conteneurs suivants, ça va être en fonction de l'évolution du marché. Donc ça, d'ores et déjà, c'est la même base, c'est-à-dire c'est le prix du marché, le minimum garanti, la prime qualité en supplément, la prime sociale et la prime agriculture biologique. Ça, c'est la même chose. Et également, à l'intérieur des coopératives, la situation peut être complètement différente. Parce que vous prenez une coopérative qui est en phase de démarrage et qui produit 2-3 conteneurs de café, c'est-à-dire à peu près une trentaine de tonnes de café, ce n'est pas la même chose qu'une coopérative qui est mature, qui va avoir des coûts de production, de commercialisation beaucoup plus bas et qui va produire par exemple 30 ou 40 conteneurs. Donc le revenu des planteurs peut être différent en fonction des coopératives, alors que le prix café que l'on paye du café est le même.
D'accord, parce qu'il me semblait qu'au début, dans l'histoire de Max Havelaar, il y avait cette idée de co-construction du prix en fonction des conditions locales. Et je me rends bien compte que fabriquer du café au Laos n'est pas les mêmes conditions qu'à Haïti, par exemple. Et donc, je voulais savoir si on s'adaptait en fonction du lieu, finalement, pour son prix d'achat et s'engager dans la durée, je crois qu'il faisait partie des
Oui,
principes au départ.
mais je pense qu'on s'adapte en fonction du lieu, puisque la prime qualité qui peut être versée peut être différente. Et puis surtout, c'est dans les actions personnelles que l'on fait en complément qui permettent de compléter. Par exemple, au Laos, on nous a demandé de les aider. Ils voulaient absolument avoir un lieu dans lequel ils allaient pouvoir faire des dégustations, parce que très paradoxalement, les producteurs goûtent rarement les bons cafés qu'ils exportent. Donc l'idée, c'était de leur faire découvrir à tous le produit qu'ils font, pourquoi il est bon, pour quelles raisons on leur demande de faire tel ou tel processus. Donc ils ont demandé de leur monter un laboratoire, de monter une unité de torréfaction, ce qu'on est en train de faire. Donc vous voyez, on va au-delà en leur apportant un appui qui va leur servir collectivement.
Merci Jean-Pierre Blanc.
Merci.
Benjamin Leroy, ça y est, vous n'avez plus de temps de parole. C'est Jean-Pierre à tout prix. Donc
Bravo.
vous êtes le fondateur d'EcoSapiens qui publie un guide d'achat éthique intitulé Les bons labels et les truands. C'est un très très beau titre. C'est un guide de consommation responsable, ce n'est pas un guide papier.
Il y a une version imprimable et pliable que l'on peut emmener du coup dans son supermarché s'il y a besoin, mais sinon on retrouve toutes les informations sur Internet puisque nous, principalement, on travaille pour l'accessibilité des produits équitables mais aussi, on va dire, écolo par Internet.
Je pense que Malongo est dans le guide.
Malongo est référencé sur notre site.
Qu'est-ce qu'il répertorie en dehors de Malongo? Quelle sorte de produits? Dans quel domaine?
Alors, Malongo a de la chance d'être là parce qu'on n'a pas beaucoup d'alimentaire sur notre site. On se dit qu'il faut souvent acheter à côté de chez soi. Après, on va retrouver tous les produits, on va dire, physiques à destination des individus. Donc, on va retrouver à la fois toute la puériculture écolo, mais aussi les matériaux de construction ou de jardinage. On va retrouver les vêtements, les produits d'entretien. Voilà, on a essayé de référencer l'ensemble de l'offre de produits pour montrer toute cette diversité de produits écologiques ou équitables.
En fait, vous présentez tous les produits qui ont une plus-value à la fois sociale et environnementale.
Alors, on va dire où et où
Où? D'accord.
et où, effectivement. Donc, en ce qui concerne l'aspect social, on va se concentrer sur les produits du commerce équitable pour l'importation. Il y a certains produits dont on va valoriser le fait qu'ils sont encore produits en France. Si on pense par exemple au textile, quand c'est encore produit en Europe, c'est des conditions de travail souvent bien meilleures qu'en Chine actuellement. On va essayer de valoriser les coopératives aussi chez nous, ça c'est les aspects sociaux. Et puis sur l'aspect environnemental, on va référencer les produits biologiques, des produits, on va dire, à faible empreinte écologique, que ce soit à la construction ou à l'utilisation, et puis les produits qui sont absents de substances toxiques, dont on découvre d'ailleurs la toxicité actuellement et petit à petit.
Vous pouvez nous citer un ou deux ou trois exemples de produits les plus éthiques possibles ?
On va dire, on a des vêtements, par exemple, qui sont fabriqués par des coopératives biologiques. Donc comme ça évite toute la pollution et la nuisance pour les ouvriers, dont toute la filière de fabrication va aussi être dans les conditions d'un commerce équitable. Avec des teintures aussi, où on va enlever les substances nocives qui sont dans les teintures, et puis on va les transporter ensuite par bateau pour éviter l'avion rapidement, et ça va être ensuite distribué par exemple via Internet, ce qui va éviter les déplacements supplémentaires entre les différents magasins.
Alors il y a quand même un gros avantage à votre guide, c'est que vous faites aussi l'énumération des labels. Or les labels, on est un petit peu perdu en ce moment. On ne sait plus très bien quels peuvent être les labels équitables et les labels pas équitables.
Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a créé les bons labels et les truands. C'était surtout pour faire face à la prolifération d'autodéclarations de marques et de déclarations trompeuses. On a découvert un qui s'appelle Emballage Nature avec un magnifique tétrapac, on va dire, avec qui lui pousse des branches. C'est très sympa, mais ça veut rien dire en fait. Voilà, on peut avoir l'impression que c'est un produit écolo, alors qu'en fait derrière il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de charte, il n'y a vraiment rien quoi. Mais le picto fait.
Justement, quels sont les critères que vous adoptez pour essayer de faire de trier le bon grain de livret pour rejeter les produits qui sont bidons et les autres qui sont très sérieux?
Ça c'est notre travail d'expertise tous les jours et puis d'échange avec les acteurs des différentes filières pour savoir les arnaques qui peuvent se mettre en place. Ce qui a été le plus dur, ça va être quelque part, on a essayé de se mouiller pour hiérarchiser, on va dire, les labels les plus exigeants des moins exigeants. Ça a été quelque chose qui est pas facile. Par exemple, le label AB qui est reconnu, dont la certification on n'a pas trop à refaire. Néanmoins, il n'est pas dans les tops. Il reste dans les bons parce qu'il y a un label qui s'appelle Déméter qui va encore plus loin sur l'agrobiologie, sur la manière dont on va entretenir les sols et qui est plus rigoureux vis-à-vis, on va dire, de la perméabilité aux OGM et compagnie. Donc voilà, AB est un bon label, mais ce n'est pas un excellent label comme on pourrait le...
Et Max Savlar, vous le situez où ?
Max Savlar, il est comme AB, en fait. On apprécie beaucoup le fait de s'intéresser aux conditions des producteurs, de savoir qu'il y a une action envers les producteurs pour qu'ils soient payés dignement. Après, on ne sait pas trop ce qui se passe forcément dans la chaîne. Depuis que, on va dire, les marques de distributeurs ont un label Max Savlar, finalement, pour nous, ça a aussi fait perdre un peu la valeur du label Max Savlar. On n'est plus dans la dynamique de Malongo avec de l'aide aux petits producteurs, mais on va se retrouver avec des marchands de papier qui vont dans une très grande coopérative qui est labellisée, parce que c'est les coopératives qui sont labellisées Max Savlar, vont acheter le papier qui vont leur permettre de le revendre, mais voilà, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas toute cette démarche-là.
Jean-Pierre Blanc, vous auriez plutôt tendance à dire que Max Savlar, c'est le seul label commerce équitable.
Actuellement, c'est le seul label commerce équitable qui a un cahier des charges qui soit respecté et qui soit propre à aider les producteurs, mais il a été créé donc il y a quelques mois en France la Commission nationale du commerce équitable qui justement est là pour dire les dérives qu'il peut y avoir sur les labels. Et c'est important parce que sur l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges qui est rigide. Quand on rentre dans le social, c'est un peu plus compliqué.
Mais elle a fait quelque chose, cette
commission? Elle est en train de mettre en place toute l'organisation et les organisations qui vont vouloir revendiquer le label commerce équitable devront passer par un agrément pour être sûr que le cahier des charges soit bien respecté et qu'il y ait vraiment une volonté, une stratégie, une politique précise de ces organismes d'être dans le commerce équitable. Et donc là, je pense que c'est une véritable innovation. Et là, il faut saluer la France d'être les premiers à faire cet exercice difficile.
On revient à vous, Benjamin Leroy. Vos produits sont en vente sur Internet. Ça s'adresse aux particuliers et aux entreprises ?
On a quelques entreprises qui nous contactent pour des achats en gros, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dirigé vers les particuliers principalement et on est en train d'ouvrir aux collectivités et aux PME, effectivement.
Qu'est-ce qu'ils consultent? Il y en a combien vous avez de connexions par jour?
On a un peu plus de 5000 personnes qui viennent par jour sur notre site internet. On travaille avec 120 boutiques clientes et on a un catalogue aujourd'hui qui fait 60 000 produits.
Voilà. Merci messieurs.
Merci.
On va se retrouver dans un instant avec Geneviève Leguet et Nathalie Aurélia.